comprendre que l'Apocalypse, loin d'être un livre qui nous conduise au désespoir, c'est un livre qui, au contraire, nous donne cette espérance divine. Dans ce très grand combat dans lequel nous sommes présents, faut pas pleurer sur les ruines de Jérusalem et du temple de Jérusalem. C'est la tentation. Vous voyez, tout est statistique. Ça me fait toujours penser à ça. Il y avait tant de prêtres en telle année, il y en a tant maintenant. Il y a telle paroisse, il n'y a plus de curé. Alors il y a de quoi désespérer, c'est fichu, n'est-ce pas ? Alors préparons-nous à l'an 2000 où il n'y aura plus un curé sur la terre. Il n'y aura plus que des laïcs. Alors c'est désespoir. C'est surtout pas ça. C'est l'inverse qu'il faut. C'est comprendre que plus ce combat est fort, plus la grâce de Dieu est là présente. Et nous assistons à une mobilisation générale. Ça, je crois. C'est pour ça que les laïcs sont mobilisés. Quand il y avait des quantités de curés en Bretagne, le troupeau n'avait qu'à suivre. Aucune espèce, il y avait des chiens de garde merveilleux. Et le curé n'avait qu'un mot à dire, le recteur a dit à vous, tout de suite, le chien de garde brûlé, mordé, le laïc qui n'était pas tout à fait en place. Aujourd'hui, plus rien du tout. C'est vrai que si on regarde la quantité, vous savez que le démon joue sur la quantité. Jamais Dieu. Alors il faut comprendre que plus la lutte est forte, plus la grâce est grande, et plus on voit ce renouveau de l'Église, cette espérance extraordinaire, tant du côté des foyers de la famille, que du côté des religieux, du sacerdoce. Il y a un renouveau étonnant. Il y a des printemps dans l'Église. L'Église de Corée. L'Église d'Afrique. Il y a des printemps dans l'Église. Et il y a des printemps même en Europe. Il faut comprendre que dans la lutte à son paroxysme, elle est peut-être à son paroxysme en France, en Europe, et tout ce qui dépend de l'Europe, le Canada. Une lutte à son paroxysme, l'Amérique et l'Amérique latine. C'est vrai, on voit ces luttes. Alors, essayons. La grande tentation, c'est de prendre les armes de l'ennemi. Sous prétexte d'adaptation. Et ça, c'est faux. Les armes de l'Église sont des armes divines et non pas des armes comme les ennemis le prennent. Les armes des ennemis, ce sont les idéologies. Face de ces idéologies athées, comprendre quelles sont les armes que Dieu nous donne. La confirmation fait du laïc, du chrétien, un chrétien prêt à la lutte. Mais une lutte pacifique, pas du tout une lutte de guerre comme le monde. Le fait, c'est une lutte dans la paix et dans l'amour. Mais c'est une lutte. Il faut que nous soyons éveillés et ne pas prendre les armes de l'ennemi. Alors là, ce serait très intéressant à analyser. Ce qui est une tentation d'imiter l'efficacité de l'ennemi. C'est vrai qu'il est très efficace. Le démon n'a pas de finalité, il ne cherche que l'efficacité. Et uniquement l'efficacité. Le nombre. Les armes divines sont des armes légères. Pensez au petit David face à Goliath. Goliath est armé d'une armure terrible, avec une épée magistrale. Et David, il n'a que ses petites pierres, ses petits cailloux et sa fronde. C'est curieux, c'est des armes du pauvre. C'était au Cameroun où je me suis trouvé devant une scène que je garde dans mon cœur parce qu'elle était tellement belle. On voyait l'homme qui avait chassé toute sa vie et avait tué 20 éléphants dans sa vie. C'était un tout petit. Alors, évidemment, je ne parlais pas sa langue, mais il y avait un interprète. Alors, je lui demandais comment c'était ce combat. Il dit oui, ils sont beaucoup plus grands que moi, beaucoup plus gros que moi. Ça pèse plus lourd, mais j'ai l'intelligence. Pensez aux chrétiens devant ces armées si fortes, si puissantes, ce pouvoir. On a la foi, une arme divine, mais il faut une foi vivante. On a l'espérance. les erreurs actuelles. Pas toujours commode. Avant, c'était très simple. On demandait à son curé, il vous donnait la doctrine de l'Église. Il y en a des sûrs. Aujourd'hui, on doute. On se dit, est-ce que c'est bien la doctrine de l'Église? J'en demandais à un autre, il dira juste l'inverse. On dira quand même, c'est pas la doctrine de l'Église. Puis on demandera, est-ce que vous êtes bien d'accord avec le souverain pontife? En gros, sur certains points, oui, mais sur d'autres, non. Ah, ben quoi? Ce qu'on veut savoir, c'est la doctrine de celui qui a reçu cette grâce de conduire l'Église. On sent très bien la dispersion des forces. Ça, c'est la tactique du démon, de l'intérieur, de disperser, de mettre cette dispersion, la cisanie. Et quand une armée est dispersée, elle a beaucoup moins de force. Alors il faut que chaque chrétien aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait des sessions théologiques, soit armé et divinement armé. Que sa foi soit plénière, que son espérance soit plénière, que sa charité aussi. L'Église, c'est le lieu des gras pâturages. Plus on sent que la lutte est forte, plus il faut se nourrir divinement. Pour ne pas avoir peur de la lutte. On ne doit pas avoir peur de la lutte. Oui, et dans la vie religieuse, on n'entre pas aujourd'hui dans la vie religieuse pour être au repos. C'est pour être au contraire en plein combat. Et aujourd'hui, on ne se marie pas chrétiennement pour être au repos. C'est pour accepter d'être en plein combat. La famille est attaquée. Le mystère de la fécondité est attaqué. Le mystère de la vie religieuse et de la fécondité divine au niveau surnaturel est attaqué. Les deux familles et les deux fécondités. Et le sacerdoce est attaqué. Alors regardons ce lieu des gras pâturages où le bon pasteur nous conduit. Ça nous permet de comprendre les armes que nous devons avoir, les nourritures que nous devons prendre. Et dans le cas, la nourriture nous fortifie et devient notre arme. Et bien dans l'Écriture, là encore je regarde l'Écriture, dans l'Écriture, il y a trois grandes nourritures qui sont affirmées. Je ne crois pas que vous en trouverez quatre. C'est intéressant de voir qu'il y a trois nourritures qui nous empêchent de nous anémier, qui nous empêchent de tomber dans la fragilité et la trop grande faiblesse de quelqu'un qui ne se nourrit plus. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture, la première. Et Jésus dit ça en présence du démon. Donc en pleine lutte. La nourriture de notre foi, c'est la parole de Dieu. Voyez, on lit beaucoup plus l'Évangile et même l'Ancien Testament qu'avant. On a un désir C'est les grandes personnes qui n'acceptent que ce qu'ils comprennent. Explique-moi un tout petit peu pour que je comprenne, pour que je puisse recevoir ce que tu me dis. Ça, c'est la parole d'un adulte. Un enfant ne dit pas ça. Dis qu'est-ce que tu dis, que je retienne bien. Et répète. La petite Bernadette répétait les paroles de la Vierge Marie sans rien comprendre. Heureusement. Pas qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle les répétait sans les comprendre. La parole de Dieu est une nourriture nécessaire pour nous, pour croître dans la foi. Il y a l'Eucharistie, qui est une nourriture. C'est la nourriture pour notre charité, pour que nous puissions croître dans l'amour à l'égard de Dieu, dans l'amour à l'égard du prochain, pour que nous puissions aller toujours plus loin dans cette intimité avec le cœur du Christ, pour que notre cœur soit changé dans le cœur de Jésus. C'est l'Eucharistie qui est une nourriture. Et Jésus le dit. Il l'a dit pour Marie, il l'a dit pour Jean, il l'a dit pour nous. Et enfin, la troisième nourriture, c'est accomplir la volonté du Père. La volonté du Père est une nourriture. Jésus dit ça quand il a rencontré la Samaritaine et que les apôtres sont venus curieusement voir ce qui s'était passé pendant leur absence. Ils ont vu Jésus avec une femme, une Samaritaine. Ils ont été très intrigués. Et Jésus a dit, quand on lui a présenté la nourriture, « Ma nourriture est de faire la volonté du Père. » C'est très beau, ces trois nourritures. L'obéissance nourrit notre espérance. Voyez, l'idéologie freudienne a attaqué l'autorité paternelle pour supprimer l'obéissance. Et en supprimant l'obéissance, il met les chrétiens, les hommes, dans le désespoir. Quelqu'un qui n'obéit plus tombe dans le désespoir. Tout le temps. Parce qu'il n'a plus d'appui. Il n'a plus aucune force. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Encore, je me souviens de ce petit dialogue qui m'a beaucoup éclairé. C'était un jeune séminariste qui me disait que ce qu'il avait le plus de peine, c'était d'espérer dans notre monde d'aujourd'hui. Et il était toujours, ça frôlait le désespoir. Il disait tout le temps, je suis tenté de désespoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon espérance grandisse? Alors je l'ai interrogé, je lui ai dit, est-ce que vous obéissez dans votre vie? Il m'a dit, ah, jamais, je ne sais pas ce que c'est que l'obéissance. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que vous voyez, je peux le dire, me disait-il, sans s'inquiéter, je suis intelligent. On m'a toujours considéré comme le plus intelligent de la classe. Alors je n'avais pas à obéir, je donnais des conseils. Et ce séminariste disait, même l'évêque me demande des conseils, parce qu'il sait que je suis très intelligent. Donc je n'obéis pas. Je n'ai jamais obéi dans ma vie. Quand on rencontre quelqu'un de 23 ans, 25 ans, qui veut se consacrer à Dieu, et qui vous dit, mais en toute loyauté, quand on obéit, on n'est jamais seul. On est toujours avec celui qui a autorité. Et celui qui a autorité, il est pour nous notre force. On coopère avec lui. Et si on coopère avec lui, on marche à son rythme. Plus on obéit à quelqu'un de grand, plus on grandit. Dis-moi qui tu fréquentes. On devrait dire, dis-moi avec qui tu coopères dans l'obéissance, et je te dirai qui tu es. C'est ça la vérité. Dis-moi avec qui tu coopères dans l'obéissance. Quelqu'un qui n'obéit jamais. Pendant un certain temps, ça tient debout. Parce qu'il y a de l'élan. Mais à un moment, ça dégringolera complètement. C'est l'obéissance qui nous fortifie et qui nous permet d'intensifier notre espérance. Et vous voyez, Freud a tué l'obéissance. Et donc, il conduit au désespoir. Ça ne peut pas être autrement. C'est très important pour nous de comprendre ces trois nourritures. L'examen de conscience devrait porter souvent là-dessus. Est-ce que nous avons soin de nourrir notre foi, de nourrir notre charité, de nourrir notre espérance? Est-ce que nous avons le souci de devenir pour Dieu des brebis grasses, spirituellement, divinement, dans la foi, l'espérance et la charité? Puisqu'il est dit dans l'Écriture que Dieu aime l'offrande des brebis grasses. Ça revient plusieurs fois. L'odeur de la graisse fondue lui offerte. Réalisme étonnant. Et nous sommes des brebis grasses lorsque nous avons de fait intensifié notre foi, notre espérance et notre charité. Et que nous vivons dans des gras pâturages. Un petit couvent comme celui-ci doit être un lieu de pâturage. Où les brebis du Christ puissent venir puiser, se nourrir. Précisons que par la foi, l'espérance et la charité, nous pouvons nous nourrir, nous fortifier, nous rendre beaucoup plus lucides pour le combat. Il faut comprendre que ces trois nourritures sont liées aux trois alliances. Et ceci aussi, c'est très important dans le combat. Dans la dernière guerre, l'ennemi essayait de mettre la déroute. En disant, vous êtes déjà battu d'avance, encerclé, ne cherchez pas à fuir. Et les gens s'arrêtaient et étaient pris comme prisonniers. Le nombre de prisonniers qu'il y a eu, c'était fou. On voit très bien comment, de fait, le démon essaie par tous les moyens de faire des prisonniers ligotés, de mener la panique, d'oublier les alliances. dans son Apocalypse, la grande lutte. Saint Jean nous rappelle, dans son Évangile, qu'il y a trois alliances. L'alliance dans le mystère de l'Eucharistie. L'alliance avec Marie, l'alliance avec Pierre. C'est textuel dans l'Évangile. Comme il y a trois nourritures, il y a trois alliances. Et il y a trois vertus théologales. Parce que l'Église est trinitaire et que la grâce est trinitaire. Bien ces trois alliances. Là aussi, l'examen de conscience doit porter sur ces alliances. Est-ce que nous vivons pleinement de ces alliances? Et ça, ça fait partie du mystère de l'Église. L'Église du Christ implique les trois alliances. L'alliance avec l'Eucharistie, c'est facile à comprendre. C'est le mystère de l'Eucharistie que nous avons vu. Et il y a une alliance dans l'Eucharistie, c'est l'alliance que Jésus réalise au terme de sa vie. L'alliance avec Marie. Marie, elle est gardienne de notre foi. Elle est gardienne de la parole de Dieu. La bonne terre, c'est Marie. Et la bonne terre garde la parole de Dieu. Et Marie, c'est la tradition, dans le sens le plus fort. La tradition de l'Église commence avec Marie. Et la tradition de l'Église est parfaitement elle-même dans le cœur de Marie. Puisque la tradition de l'Église, c'est la manière dont les saints ont gardé la parole de Dieu pour que cette parole puisse fructifier et porter tous ses fruits. Marie est la bonne terre qui garde la parole de Dieu, et la parole de Dieu fructifie dans le cœur de Marie et porte tous ses fruits. C'est avec Marie et par elle que nous pouvons vivre de la parole de Dieu. Très souvent, nous ne pouvons vraiment vivre de la parole de Dieu qu'à travers le mystère de Marie. Et c'est vrai, c'est une alliance avec Marie. On n'en a pas parlé beaucoup. Mais vous comprenez bien que le mystère de l'Église est parfaitement réalisé dans la femme. Et la femme, telle qu'elle est montrée au chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est premièrement Marie. Marie nous fait comprendre ce qu'est l'Église, dans toute sa force. Et Marie est la femme qui a lutté le plus durant toute sa vie. Elle est plus terrible qu'une armée rangée en bataille, dit Saint Louis Marie Grignon de Montfort. Marie nous est donnée pour être gardienne de notre foi, pour être pour nous la bonne terre qui garde la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas le théologien qui est la bonne terre qui garde la parole de Dieu. C'est Marie. C'est la femme. Et enfin, l'alliance avec Pierre, chapitre 21 dans l'Évangile de Saint Jean. Quelque chose de merveilleux de voir temps avec Pierre, fait paître mes brebis, et Jésus l'affirme trois fois, m'aimes-tu. Vous voyez, c'est très curieux, cette triple affirmation pour sonder dans le cœur de Pierre l'amour dans ce qu'il a de tout à fait premier, le premier amour, pas l'amour actuel, mais le premier amour qui rejoint l'amour actuel, le premier amour de Pierre. Ce premier amour fervent de la rencontre première de Jésus avec Pierre. Et c'est pour ça qu'il affirme jusqu'à trois fois pour se mettre en présence cet amour fervent et premier. L'alliance avec Pierre qui nous permet d'accomplir la volonté du Père. Chaque fois que vous obéissez Saint-Père, vous obéissez à Jésus, vous obéissez au Père qui est dans les cieux. Chaque fois que vous résistez à l'obéissance du Saint-Père, vous mettez en dehors du Christ et en dehors de l'Église et en dehors du Père. C'est très important pour nous de nous le rappeler aujourd'hui. L'Esprit Saint a voulu Vatican I, rappeler l'infaillibilité du pape. Parce que je crois que ce serait très difficile aujourd'hui, vu le climat. Oui, mais comme le Saint-Esprit est plus intelligent que tous les théologiens, tous les évêques, il a fait que ça se passe avant. Ça, c'est très intelligent. Et le Saint-Père est infaillible en matière de l'enseignement, de la foi, pour préciser ce qu'elle donne, et aussi en matière de tout ce que représente la vie humaine, la morale humaine. Le Saint-Père est spécial voulu par Dieu pour nous éclairer dans ce temps de lutte sur ce que nous devons croire et ce qui n'est pas de l'Esprit Saint. L'alliance avec Pierre, elle est dans l'évangile de Jean, elle est affirmée Vatican I. C'est important pour nous de ne jamais quitter cette lutte. Il y a des choses que nous comprenons et il y a des choses que nous pouvons très bien ne pas comprendre. C'est normal que lorsque le pape parle, il y a des tas de choses qu'on ne comprenne pas. Alors on demande au théologien d'expliquer. Et le rôle du théologien, c'est d'expliquer la parole du Saint-Père pour qu'on la comprenne bien et qu'on l'accepte pleinement et totalement. Non pas qu'on la comprenne dans le sens humain, que dans la foi, on y adhère pleinement. Ces trois alliances, ces trois nourritures, nous permettent de comprendre où est l'Église du Christ. Je crois que c'est merveilleux dans une perspective de l'économie divine, dans les perspectives œcuméniques, de bien voir cela. Voyez, seule l'Église catholique vit des trois alliances. Seule l'Église catholique vit en plénitude des trois nourritures. Et c'est ce qui montre le caractère le plus authentique de l'Église catholique. Ce sont les gras pâturages. Tandis que si vous regardez les autres églises, il manque toujours attention. Et quand vous voyez que le monde d'aujourd'hui va à la dérive, il ne sait plus où il va. On assiste à des événements qui sont tellement difficiles à comprendre. L'Église a une lumière divine, qui est la lumière du Christ. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière de l'Europe et la lumière du monde. Pour savoir ce qu'il faut faire, c'est regarder Jésus. Et Jésus, à travers ces trois nourritures, Jésus, à travers ces trois alliances, c'est lui qui fait l'unité des trois alliances. Elles sont une dans le cœur du Christ. Et les trois nourritures, elles sont une dans le Christ. Puisqu'il faut toujours retrouver l'unité. Mais c'est à travers les trois alliances, à travers les trois nourritures, que je saisis en plénitude le mystère du Christ. Voyez le mystère de l'Église. Nous avons vu quelques aspects. La structure d'unité. Puis nous essayons de comprendre comment nous pouvons saisir ce mystère d'unité. Comment nous pouvons essayer de comprendre à travers la révélation. Puis nous avons vu l'Église dans ses grandes luttes. Puis nous voyons la nourriture nécessaire pour être capable de lutter. Il faudrait, en terminant, bien comprendre les liens de l'Église et du mystère de Marie. Marie est à la fois au-delà et elle est encore plus présente à l'Église que les docteurs qui sont immédiats ecclésiés. Marie n'est pas seulement immédiat, elle est dans le cœur de l'Église. Elle est au plus intime du mystère de l'Église parce qu'elle est la première brebis. La brebis la plus aimée, celle qui suit Jésus de la manière la plus forte, la plus généreuse. Elle est par le fait même la brebis la plus aimée, qui sera la plus unie à Jésus au calvaire et qui coopérera de la manière la plus aimante au mystère de Jésus. C'est pour ça que c'est si important de regarder le mystère de Marie pour comprendre le mystère de l'Église. C'est si important de regarder l'Eucharistie pour comprendre le mystère de l'Église. L'Eucharistie et Marie ne se comprennent que relatifs au mystère du Christ. Et le mystère du Christ, il est tout entier relatif au Père. Voyez comment se